Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast dédié aux intrapreneurs qui ont un impact sur la société et leur entreprise. Ces Intrapreneurs for Good, ce sont avant tout des collaborateurs, avec leur motivation, leur raison d'être, et ce moment d'alignement entre leurs convictions et la réponse à un problème qu'ils concrétisent sous la forme d'un projet. Cela m'a fait me poser cette question. Et s'il y avait rencontre entre une idée et une personne ? Et comment faire pour que cela marche sur le long terme, pour ancrer son projet au sein d'un système et changer les choses en profondeur ? Chaque trimestre, je tends mon micro à l'un de ces acteurs du changement pour qu'il ou elle se raconte et vous donne envie d'agir. Parce que la meilleure preuve, c'est l'exemple. Alors, à vos oreilles !
Intrapreneur for good. For good.
Croire aux rencontres, connaître sa singularité, ses forces et sa juste place pour donner à un projet toutes les chances de se déployer et avoir le plus grand impact possible. Voilà quelques-uns des super-pouvoirs de Claire Gagnaire que je vous propose d'écouter aujourd'hui. C'est d'ailleurs à la suite d'une rencontre que Claire a rejoint Helio, une scale-up spécialisée dans la maîtrise de l'énergie. D'abord comme directrice du développement commercial, puis comme secrétaire générale et directrice des relations extérieures. Pourquoi je vous en parle ? Parce que Claire venait du secteur du tourisme et ne connaissait rien à l'énergie. Alors au début, elle a douté, elle s'est même sentie nulle pour reprendre ses mots. Mais elle a très vite retrouvé le pourquoi de sa mission. Développer le relationnel client en utilisant son goût pour le lien, son intuition, sa capacité à identifier les bonnes personnes et les bons sujets, son besoin de transmission. Et elle a bien fait, car c'est ainsi qu'elle est aussi devenue intrapreneur. De fil en aiguille, elle a identifié un véritable problème, celui du manque de force vive pour répondre aux chantiers de rénovation énergétique. Et surtout, elle a réfléchi à un moyen d'y répondre. Ce moyen, c'est les reconstructeurs, une école développée par un consortium de spécialistes de la formation et de la rénovation, parmi lesquels Helio, et permettant de simplifier l'accès à ces métiers et d'attirer des profils, notamment via la reconversion. Cela en combinant digital et formation sur le terrain. Je vous l'ai expliqué en quelques mots, mais elle le fera beaucoup mieux que moi. Et surtout, j'espère que vous en apprendrez autant que moi sur l'importance de s'écouter et d'être honnête envers soi-même. C'est dans la mesure que l'on accomplit aussi les plus grandes choses. Bon podcast ! Bonjour Claire !
Bonjour Mathilde.
Je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui ici donc dans ton bureau pour parler de ton parcours, de ton cheminement en tant qu'intrapreneur, de comment est-ce que tu as lancé les reconstructeurs. Avant de parler du présent et de l'avenir, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour par le passé. Et j'avais une première question pour toi autour de l'enfant que tu étais. Est-ce que l'adulte que tu es aujourd'hui est fidèle à cet enfant que tu étais ?
Je crois que oui. En fait, quand j'étais enfant, j'aimais surtout être avec les autres. J'avais envie d'aider tout le temps les autres. Mes parents disaient « tu vas être infirmière, tu vas être dans le social » parce que j'ai toujours aimé apporter mon aide, mon soutien, même parfois sur des sujets où je n'étais pas du tout experte, comme les maths par exemple, mais j'avais envie d'aider les autres. J'ai aussi toujours eu envie de voyager, donc dans cette idée de rencontrer toujours les autres. Et aujourd'hui, dans ma vie d'adulte et dans ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance de continuer, en fait, à rencontrer du monde, à voyager et à aider, surtout à aider les autres.
Ça veut dire que dès le début, ton orientation professionnelle a été influencée par ça, par cette envie d'aider, de créer du lien, de rencontrer ?
Alors oui, au début, j'ai commencé dans le secteur du voyage tourisme. Donc là, c'était plus, on va dire, une aspiration personnelle de partir en voyage, à la découverte de pays. J'avais envie de faire le tour du monde. Donc je me suis lancée à faire des études de journalisme où je n'ai pas du tout réussi. Donc c'est là où je suis partie vers le secteur du tourisme. Et ça m'a permis de faire 20 ans dans un secteur où j'ai découvert plein de pays, rencontré plein de gens, travaillé avec des agences de voyage, vivre toute la mutation des agences de voyage vers l'Internet. Donc ça a été une période de ma vie, une première période de ma vie dédiée effectivement au voyage et aux découvertes. Et la deuxième partie de ma vie, je dirais, elle est aujourd'hui plus dans la transmission et dans l'aide et tout ce que je peux apporter auprès de jeunes générations ou comme on va en parler tout à l'heure, auprès de professionnels d'un secteur qui aujourd'hui est en plein essor.
Justement, je voulais te demander comment tu étais passé du secteur du tourisme, du voyage, au secteur de l'énergie. Parce que Elio, à l'origine, c'est ça, c'est un expert énergétique. J'ai l'impression que tu as déjà répondu, c'est le fait, l'envie de transmettre aux jeunes générations.
Oui, ça a été une rencontre. Alors, je crois beaucoup, moi, aux rencontres. Pas au hasard, mais aux rencontres. C'est-à-dire une rencontre d'une personne qui était en train de se créer cette entreprise, qui recherchait des personnes pour l'accompagner sur différents sujets. Donc là, on parlait de communication, de camp de management, des sujets que j'avais déjà traités dans mes 20 ans dans le secteur du tourisme. Et donc j'ai décidé de faire le pas, de sortir de cette zone de confort dans laquelle j'étais finalement très à l'aise, un secteur que je connaissais bien, où j'étais connue, reconnue, pour démarrer une toute nouvelle carrière dans l'énergie, quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert au fur et à mesure dans cette entreprise qui, partant de 10 personnes, est arrivée aujourd'hui à plus de 300 personnes, et de participer, contribuer à son développement.
Est-ce que tu avais déjà conscience, est-ce que tu as fait cette transition, cette première transition, parce que tu avais conscience de tes forces, de tes compétences, ou est-ce que tu étais plutôt orienté vers ton enjeu d'accompagnement, de transmission, ce que tu dis quand même, que tu as quitté tout un environnement que tu maîtrisais pour aller vers un autre où finalement la seule chose que tu maîtrisais, c'était tes propres ressources?
Oui, je pense que j'étais assez consciente de ça parce que dans les 20 ans, un peu plus de 20 ans dans le secteur du tourisme, j'ai changé plusieurs fois de poste au sein de la même entreprise et ensuite d'entreprise. Enfin, plusieurs fois, trois fois, ce qui n'est pas non plus énorme. À chaque fois, je suis restée entre 9 et 3 ans, avec à chaque fois des nouvelles compétences à acquérir. Je n'ai pas peur, en fait, d'affronter des nouveaux sujets, même si je sais que je ne suis pas forcément experte sur ce sujet-là. J'ai envie d'apprendre et de montrer que je peux le faire, en fait. Donc, je n'ai pas eu d'appréhension pour changer complètement de secteur, même si au bout de quelques mois, je me suis dit, oh là là, est-ce que je n'ai pas fait une bêtise? Parce qu'il y a plus de 40 ans, de changer comme ça, de se retrouver dans un secteur où honnêtement, les termes, les mots, tout ce qui était... on parlait de gigawattheure, de certificat d'économie d'énergie. C'était, je rentrais chez moi le soir, je disais à mon mari, mais je me sens bête. Je crois que je vais arrêter. J'ai eu des moments de doute comme ça. Et puis après, je me suis dit, non, écoute, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et puis, il faut que tu te positionnes autrement. C'est-à-dire, tu ne vas pas être l'experte en économie d'énergie, puisque tu connais rien. Tu es là aussi pour apprendre. Et toi, tu vas transmettre ce que tu sais faire depuis 20 ans, c'est-à-dire le relationnel client, la partie un peu ressources humaines, la communication. Et c'est à partir de là que je me suis sentie plus à l'aise, que les personnes avec qui je travaillais aussi m'ont vue de manière bien différente également. Et on a pu comme ça poursuivre le chemin jusqu'à maintenant.
Oui, ça montre que finalement, tu as toujours une bonne écoute, une bonne honnêteté de toi-même, envers toi-même.
Oui, je pense que je pense savoir là où je suis bonne, là où je peux m'améliorer et là où je sais, où typiquement, je ne peux pas aller. On va parler d'entrepreneuriat. Par exemple, je sais que je n'ai pas un profil d'entrepreneur. Je ne me sens pas les épaules pour porter un projet seul, avec mes propres moyens. Voilà, ça, je sais que j'en suis pas capable. En revanche, accompagner avec d'autres, mener un projet, ça, je me sens tout à fait capable de le faire.
C'est ça qui t'a mené vers l'intrapreneuriat ? Est-ce que j'ai l'impression que tu as cette envie d'explorer, d'agir, et tu viens de le dire, pas envie de faire ça seul, mais tu aurais pu le faire en rejoignant une entreprise qui, elle-même, explore. Pourquoi est-ce que tu t'es orienté petit à petit vers l'intrapreneuriat et vers le lancement de ton propre projet en interne ?
Parce qu'en fait, c'est le projet des reconstructeurs, ça vient d'un constat que j'ai eu après plusieurs années au sein d'Elio, puisque notre rôle, c'est de proposer à des entreprises de travaux des chantiers de rénovation énergétique. Et très souvent, ces entrepreneurs du bâtiment me disaient « on a envie de faire beaucoup de chantiers, mais on manque ». On manque de bras, on manque de jeunes ou de moins jeunes qui ont envie de faire ce métier-là. Comment faire pour les trouver et puis pour les faire venir au sein de nos entreprises et les accompagner dans ces métiers de la rénovation? Et donc, ça, tout ça a cogité dans ma tête. Et en réfléchissant, je me suis dit, est-ce qu'on va créer un nouveau modèle d'école, peut-être, parce que l'éducation, c'est aussi un sujet qui me passionne. Il existe beaucoup de centres de formation, il existe beaucoup d'écoles, il y a des grandes écoles aussi autour de l'artisanat. Est-ce qu'il faut inventer un nouveau modèle pour attirer les jeunes générations, pour attirer les personnes en reconversion? Donc tout ça, je l'avais dans ma tête. J'avais du mal à le mettre aussi sur une feuille de papier. Et puis, c'est aussi une rencontre à nouveau avec une personne qui s'appelle Guillaume Loiseau, qui, lui, était dans un autre secteur, mais qui est quand même lié au bâtiment, qui avait cette même réflexion et qui était plus aboutie, sa réflexion. Il avait déjà créé des notes de synthèse, il avait déjà rencontré du monde sur ce sujet-là. Et donc, on s'est rencontrés et pendant un an, on a continué à réfléchir ensemble à ce projet-là. Moi, pour voir comment en interne je pouvais le mettre en place, et lui, dans ses réflexions personnelles. Et finalement, on l'a fait ensemble. Mmh. Et aujourd'hui, c'est un projet qui a eu plusieurs prix et qui commence à prendre forme.
C'est beau parce que, tu sais, on dit souvent que finalement, dans une entreprise, c'est 10% l'idée et 90% la mise en œuvre. Et ce que tu racontes, ça montre aussi, souvent les entrepreneurs ont peur de partager leur idée. Mais toi, c'est justement le fait de l'avoir partagée et d'avoir rencontré qui a permis d'aboutir à la concrétisation de quelque chose.
Oui, c'est pour ça que je disais, je ne suis pas entrepreneur, parce que cette idée, j'avais besoin de la partager. Et c'est en la partageant que j'ai découvert qu'il y avait une autre personne qui avait aussi cette idée, qui avait même été plus avancée. Donc j'étais très contente parce que je me suis dit, je vais travailler avec lui, ça va être formidable parce qu'il a déjà, il a peut-être plus de contacts, plus de réseaux et il est plus mature dans sa réflexion que moi parce que plus aussi d'expérience dans le secteur du bâtiment et dans ce secteur des entreprises de travaux. Et moi, je lui ai apporté finalement les ressources Elio, à la fois l'engagement de notre président à financer ce projet-là. Donc voilà, on a trouvé ensemble une alchimie qui fait qu'on a pu présenter ensemble, après en trouvant aussi d'autres partenaires, d'autres acteurs qui avaient envie de nous rejoindre. Et c'est comme ça qu'on a réussi à monter le projet.
Et alors, quelle est-elle, cette alchimie? C'est quoi la particularité des reconstructeurs?
Alors, la particularité, déjà, les reconstructeurs, c'est vraiment l'idée de rassembler des différentes parties prenantes, donc des spécialistes de la formation. Donc, on a les Compagnons du Devoir et l'AFPA, qui est un énorme organisme de formation et qui forme à beaucoup de métiers autres que la rénovation ou les travaux. Une entreprise dans le digital qui nous apporte son expérience dans le digital, dans l'intelligence collective. Elio, bien sûr, avec l'expertise de la rénovation énergétique, des économies d'énergie. Tous ensemble, on a créé un consortium et on a réfléchi à comment attirer des personnes en reconversion ou des jeunes vers les métiers de la rénovation énergétique, comment simplifier ces métiers aussi pour les rendre plus attractifs, pour accélérer aussi la rénovation énergétique, et tout ça en liant du digital, une formation via le digital et une formation sur le tas, donc en situation de travail, comme on dit, où on va accompagner la personne sur un chantier avec une relation très étroite avec le patron de l'entreprise qui va l'embaucher. Mmh. Donc c'est un projet sur plusieurs années pour lequel on a sollicité, on a répondu à deux appels à projets ou appels à manifestations. Un sur l'innovation via le digital, qui s'appelle Définum, qui est donc un projet qui est porté, les projets sont portés par le ministère du Travail et de l'Éducation. Et le deuxième, qui est compétences métiers d'avenir. Et là, où on a également gagné, on est lauréat, et ce qui nous permet de développer toute l'activité sur le terrain, donc de faire venir les jeunes, de leur expliquer le projet, de les former et les accompagner dans cette formation. Donc aujourd'hui, on est au début de ce projet, la mise en œuvre de notre idée grâce à ces financements qu'on a pu obtenir.
C'est un projet hyper ambitieux, parce que la raison d'être, en plus, elle interconnecte plusieurs problèmes. Enfin, quand tu parles de reconversion, donc c'est quoi? C'est des personnes qui partent après un plan de départ d'emploi. Enfin, c'est quel type de profil, quel type de public vous adressez?
Alors, quand on parle de la reconversion, on s'est dit que dans les métiers de la rénovation énergétique aujourd'hui, quand on prend un chantier, une maison à rénover, on a besoin de quelqu'un qui soit à la fois organisé, un chef d'orchestre, qui puisse coordonner plusieurs métiers, corps de métier. Et dans certaines professions aujourd'hui, si on prend dans l'automobile ou même l'aéronautique, il y a ces profils-là, à la fois de l'organisation très opérationnelle. Et on a effectivement imaginé que dans des plans de départ que peuvent avoir dans l'automobile, notamment des entreprises comme Renault et autres, on peut trouver ces profils-là de personnes d'une cinquantaine d'années ou 55 ans qui peuvent tout à fait avoir ce profil et accompagner des rénovations énergétiques et coordonner des chantiers. Donc ça, c'est pour la reconversion. Et puis pour les jeunes, c'est de leur dire la rénovation énergétique, il ne faut pas voir ça comme je vais être sur un chantier, ça va être... bien sûr, c'est compliqué, c'est dur, c'est fatigant un chantier. Il ne faut pas non plus leur faire croire que c'est facile. Mais c'est un travail d'équipe. Il y a du sens aussi, puisque quand on rénove une maison, on rend l'habitat sain. On permet de réduire l'empreinte carbone. On fait faire des économies au ménage et à la famille qui habite dans cette maison. On redonne pour certaines familles également ce meilleur habitat, en fait, leur permet de gagner aussi en pouvoir d'achat. C'est bon pour la santé. Enfin, il y a plein de raisons qui font que la rénovation énergétique aujourd'hui, ça peut donner du sens aux jeunes de se lancer dans ces métiers-là. Que c'est des métiers où on travaille en collectif. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de travailler avec d'autres et que le résultat, on a un résultat concret à la fin de son chantier. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est assez gratifiant aussi. Et leur montrer qu'on peut se former via le digital, c'est-à-dire qu'on crée une plateforme qui leur permet de se former au fur et à mesure avec des batchs à chaque fois qu'ils passent un module. Donc c'est à la fois ludique, ça correspond à ce qu'ils utilisent aujourd'hui via les réseaux sociaux, ou même en classe. Et puis d'être sur le tas, être accompagné par un tuteur qui va leur montrer exactement ce qu'il faut faire. L'apprentissage, aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche bien. On le voit en entreprise. Et les jeunes ont envie de concret. Et là, on leur propose justement du concret et de réaliser très rapidement leur premier chantier.
Est-ce que tu avais identifié dès le début le côté systémique de ton projet ou est-ce que tu le découvres petit à petit de toutes les cases que ça coche et de tout ce que ça, justement, le maillage qui existe ?
Je crois que je le découvre petit à petit. Et surtout en parlant de plus en plus. Au début, avec Guillaume, on en parlait peu. C'était un projet pas top secret, mais pas loin, parce qu'on réfléchissait à comment le mettre en œuvre, quels acteurs on allait faire venir avec nous. Mais on connaissait le but. Notre but, c'était effectivement de former et de faire venir plus de monde sur la rénovation énergétique. Mais je crois que c'est en parlant à différents acteurs, en parlant autour de dans notre entourage, qu'on s'aperçoit de la portée en fait de ce projet. Donc oui, je le découvre au fur et à mesure.
Je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur le fait pour les reconversions finalement d'identifier les personnes par leurs compétences, ce qui est déjà très innovant, dans le sens où on est encore dans un système où on s'identifie par ses diplômes ou par son expérience. Et je me demandais justement, comme tu parles de toi via justement ton savoir-être, est-ce que peut-être que tu étais la bonne personne pour penser ça et avoir cette approche humaine dans le lancement des reconstructeurs ?
Alors, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas une carrière scolaire ou éducative. J'ai pas fait des grandes écoles. Je me suis un peu formée aussi beaucoup sur le tas. C'est moi-même. Donc, je crois beaucoup à l'expérience, au savoir-être plus que au diplôme. Je crois aussi que les gens qui ont envie de s'investir dans ces projets-là, comme la rénovation énergétique ou de reconversion, c'est des gens... On va pas étudier effectivement leur CV. On va plutôt étudier ce qu'ils ont déjà fait concrètement dans leur métier. Donc c'est effectivement les compétences. Le savoir-être, c'est énorme, c'est très important sur un chantier. Moi, quand je discute avec des entrepreneurs dans le bâtiment, ils me disent ce qui compte, c'est que les gars ou les filles, parce qu'il y a quand même pas mal de femmes maintenant qui rejoignent ce secteur-là, s'entraident, travaillent ensemble. C'est l'attitude, c'est être à l'heure sur le chantier, c'est répondre aux clients, C'est pas juste venir faire les travaux et puis partir. Donc le savoir-être, je crois, est de plus en plus important, à la fois sur un chantier, mais bon, dans l'entreprise et puis dans la vie quotidienne, quoi. Donc moi, je crois beaucoup et j'essaye aujourd'hui au sein d'Elio d'avoir cette attitude et de montrer à cette jeune génération comment être, comment interagir avec les autres, parce que moi, je crois que ça facilite beaucoup. Des projets de cette taille-là, ça facilite la vie au quotidien d'avoir cette attitude et ce positionnement à la fois de respect, d'engagement. Moi, je crois beaucoup à ça.
Avant de revenir sur toi et le projet, j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus sur le projet. Tu as dit que vous étiez en train de placer les pions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur où vous en êtes et puis c'est quoi les prochaines échéances ?
Alors, quand on a réussi à passer les deux étapes d'être lauréat de Définum et de compétences et métiers d'avenir, la question ensuite, c'est comment mettre en œuvre tout ce qu'on a imaginé, écrit, qui va faire quoi. Et là, effectivement, il nous fallait quelqu'un qui soit capable, en fait, de faire travailler ensemble les acteurs qu'on avait réunis en consortium, quelqu'un qui comprenne bien le métier d'artisan, les différents métiers d'artisan, les freins aujourd'hui à entraîner les jeunes vers ces métiers de la rénovation, et qui soit aussi très organisé, très impliqué, et qui soit, on va dire, à 100% sur ce projet-là. Donc, ce qui ne pouvait pas être mon cas, effectivement, puisque j'ai d'autres missions au sein de l'entreprise. Et puis, surtout, moi, j'aime bien initier des projets, mais je ne me sens pas, effectivement, capable d'aller jusqu'au déploiement, au développement de ce projet. Mon objectif, c'était de trouver la personne qui allait pouvoir remplir cette mission-là. Ça m'a pris pas très longtemps, en fait. Et j'ai trouvé Marc, qui aujourd'hui a repris le projet Les Reconstructeurs et qui fait le chef d'orchestre, celui qui rappelle les enjeux, qui gère le budget aussi, puisqu'on parle de plusieurs millions d'euros, et avec lequel j'ai des interactions régulières, bien sûr. On a un pilotage une fois par semaine. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a endossé ce rôle de directeur de programme ou directeur de projet pour réaliser les reconstructeurs.
C'est marrant parce que je t'ai posé la question de où en est le projet et tu es revenu sur l'humain via le projet. Donc comme quoi, il y a vraiment ce fil conducteur chez toi. Donc Marc, qu'est-ce qu'il est en train là de mettre en œuvre et aujourd'hui, est-ce que vous avez un lieu pour l'école ou comme c'est digital, est-ce que tout se fait à distance? Est-ce que vous avez une première promo?
Alors, il n'y a pas de lieu, effectivement, ça se fait à distance. Non, aujourd'hui, on en est à la création de tout le contenu qu'il doit y avoir sur la plateforme digitale. Donc, le rôle de Marc, c'est de bien s'assurer que les différents intervenants remplissent correctement la plateforme digitale avec le contenu adapté. Et également, on a prévu de faire des petites vidéos qui permettent de montrer le geste. Comment je pose un isolant, comment je pose une chaudière, etc. Donc là, son rôle, c'est de trouver les bonnes entreprises au sein d'entreprises de travaux, l'expert qui va nous aider à faire ces vidéos, enfin qui va faire le geste et nous faire les vidéos pour pouvoir ensuite faire plein de montages vidéo qui seront à disposition de nos personnes en formation. Donc voilà où on en est. On est vraiment à la création de différents modules que l'on a imaginés dans les reconstructeurs. Et donc, c'est de la planification, c'est mobiliser les personnes qui ont plein d'activités à côté. Donc, c'est pouvoir les garder mobilisées sur ce projet-là. Donc, le contenu et de faire tous les mois un comité de pilotage pour qu'on suive aussi le budget, puisqu'en fait, on a reçu de la part de la Banque des Territoires des sommes importantes pour réaliser ce projet. Il faut qu'on puisse rendre des comptes et de dire voilà où on en est, ce qu'on a dépensé, où est-ce qu'on va et est-ce qu'on sera dans les temps pour réaliser le projet jusqu'à... On a 2025, 2026 pour arriver au bout du projet.
Et est-ce qu'ensuite, vous allez placer les personnes qui ont été formées? Est-ce que vous fonctionnez par partenariat avec des chantiers?
Alors, tout à fait. En fait, le départ, finalement, ça, je l'ai pris à l'envers tout à l'heure, mais c'est une demande qui vient d'une entreprise de travaux, qui recherche quelqu'un pour la partie plutôt plomberie, chauffage. Eh bien, nous, on va lui proposer le ou la personne qui a été formée au sein des reconstructeurs et qui va aller sur le, dans l'entreprise. Donc, en fait, on fait comme une agence intérim, mais qui n'est pas de l'intérim, une agence d'offre d'emploi, un pôle emploi, finalement, où on met en relation, effectivement, l'entreprise avec le bon candidat. Et on propose à l'entreprise un candidat qui a déjà un début de formation et qu'on va accompagner tout au long de son apprentissage au sein de l'entreprise.
Donc il faut attendre 2025-2026 pour avoir une première mesure d'impact concrète ?
Oui, tout à fait. À partir de 2025, en fait. Oui.
Ouais. Pour toi, j'ai l'impression que c'était très clair, ton rôle. Tu as dit justement que tu aimais initier et qu'après, tout de suite, tu as voulu chercher quelqu'un pour gérer le projet. Donc c'est vraiment un cheminement qui, pour toi, a été identifié dès le début, ou est-ce que tu as dû te poser la question « qui suis-je pour mon projet ?»
Non, ça me semblait évident. Évident parce que par mes expériences passées, j'ai souvent eu ce rôle d'initier des projets ou d'accompagner un début de projet et ensuite de trouver la personne qui avait les compétences pour gérer un projet. C'est des compétences qui, pour moi, sont assez bien identifiées et que je n'ai pas. En fait, il y a ce côté... je vais dire que... C'est pas que je suis pas rigoureuse, mais il y a ce côté rigueur, implication au quotidien, suivi du projet, relance auprès des parties prenantes. Tout ça, c'est pour moi un profil bien particulier et c'est pas le mien.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un intrapreneur, tu vois, justement, de bien regarder dans son passé, de bien regarder dans ses expériences passées, dans son fonctionnement, pour bien comprendre comment est-ce qu'il pourrait gérer ou transmettre le projet qu'il initie ?
Je pense qu'il faut bien se connaître, effectivement, connaître ses limites, connaître, bien sûr, ses forces, et surtout de ne pas peur, mais de se dire que ce projet-là, il va être porté après par quelqu'un d'autre, qui va le faire aboutir. Bien sûr, on va l'accompagner, mais si le projet réussit, ça sera grâce à cette personne. Ça ne sera pas grâce à moi. Moi, je serai là pour l'accompagner, mais c'est lui, en fait, qui va faire en sorte que ce projet aboutisse. Donc, c'est de, finalement, passer la main, un peu comme avec un enfant, quoi. Une fois qu'on l'a mis sur la route, allez, hop, il grandit, et puis il fait son propre chemin. C'est on l'accompagne un bout, et puis ensuite, c'est le directeur du projet qui aura... Si le projet réussit, tout le mérite, et tant mieux. Moi, je serais très contente, effectivement, de me dire dans 3 ans, le projet, il a abouti, on a réussi à avoir une première promo, on a trouvé le modèle fonctionne, on fait même des jaloux, pourquoi pas, il y a des gens qui veulent faire comme nous, etc. Et que ce soit Marc qui l'ait fait.
Et toi qui t'envoles vers de nouvelles mises en place, de nouveaux projets ?
Un nouveau projet, voilà, tout à fait. J'en ai pas encore vraiment identifié. Aujourd'hui, au sein d'Elio, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Après, à moi de trouver celle où je peux aussi apporter mon expertise, mon expérience, mon réseau aussi, pour accompagner peut-être des futurs intrapreneurs au sein de l'entreprise dans leurs projets.
On en revient toujours à ça, finalement, c'est d'être conscient de son fonctionnement et de ses besoins pour se sentir à sa juste place ensuite.
Oui, complètement. Je crois qu'il y a un moment où, surtout à mon âge, on va dire, où on sait où est sa place, on sait ce qu'on peut apporter aux différents membres, aux différents collaborateurs, aux différents collaborateurs. Et il y a des sujets où je sens que je suis assez légitime pour accompagner, et d'autres où je sens bien que je ne vais pas apporter grand-chose. Donc je laisse plutôt faire les experts. Ou ce que j'aime bien également, c'est identifier au sein de l'entreprise des personnes qui sont peut-être des fois un peu cachées, qui n'osent pas se manifester ou prendre la parole. Et au contraire, leur dire, ben, ça c'est peut-être pour toi, pourquoi tu t'y vas pas ? Et très souvent, il y en a qui me disent, ah ben, j'y ai pas pensé. Et donc, c'est, voilà, je pense que mon rôle, il est plutôt là, maintenant.
Est-ce que c'est ça que cette aventure intrapreneuriale a confirmé de toi ?
Oui, je pense que ça, c'était déjà... ça me trottait dans la tête, ce côté un peu transmission ou mentoring, finalement, que j'ai pas eu l'occasion de... Je l'ai fait un peu dans des réseaux de femmes, notamment, dans lesquelles j'étais. Mais je ne l'ai pas jamais fait dans l'entreprise. Et je pense que c'est ce projet, effectivement, qui m'oriente petit à petit vers ces rôles-là.
Qu'est-ce qu'on t'a dit à toi, et qui t'a aidé et que tu as envie de transmettre ?
Je vais réfléchir.
Et alors, justement, si tu ne sais pas, Qu'est-ce qu'on t'a pas dit quand t'as commencé à travailler sur ton projet, que t'as constaté et que tu as envie de transmettre ?
Alors, il faut savoir, oui, je pense que sur ce projet-là, au début, j'ai très peu communiqué en interne. C'est vrai que je travaillais un petit peu en sous-marin. Puis petit à petit, j'ai eu quand même besoin de compétences qu'il y avait ici chez Elio. Donc, j'ai commencé à en parler à certaines personnes. Mais qui, effectivement, comme je n'en avais pas parlé de manière plus ouverte, n'ont pas vu ça comme un projet soit stratégique, soit porté par l'entreprise, puisque c'était un peu en sous-marin. Et donc là, je pense qu'il y a eu, si je devais refaire un petit pas en arrière, je pense que j'aurais peut-être expliqué plus rapidement et ouvertement quel était le projet au sein de l'entreprise, pour avoir dès le départ peut-être un peu plus de soutien. Je ne dis pas que je n'ai pas eu de soutien, les personnes sont toutes de bonne volonté, mais ne voyant pas que c'était un projet d'entreprise au départ, ils avaient d'autres missions et effectivement, ils ne pouvaient pas être partout. Ça montre aussi que j'étais peut-être pas très sûre au départ que ce projet allait avoir l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Donc je pense que pour répondre à ta question, c'est effectivement qu'on me dise « oui, tu es dans la bonne direction, c'est ton projet, ça a du sens » ou « c'est innovant, ça n'existe pas aujourd'hui ». Ça, je ne l'ai pas eu, effectivement, puisque je pense que, comme je ne l'ai pas communiqué, je n'ai pas eu ça. Et c'est vrai que par moments, ça me manquait. Je me disais, mais quand même, c'est super innovant ce qu'on va faire. Donc moi, je me disais ça dans ma tête. Et après, à partir du moment où, effectivement, on a commencé à en parler, le projet a trouvé de l'écho et de l'intérêt, même auprès des directeurs, des membres du COMEX. Ça est devenu un projet maintenant d'entreprise.
Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est pas tant pitcher son projet, mais c'est aussi pitcher sa raison d'être, sa mission, ses convictions dès le début.
Oui, exactement. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début, en fait. Mmh. Et là, c'était plus, tiens, Claire, elle travaille sur un projet, les reconstructeurs, bon, je sais pas trop ce que c'est. et le fait, effectivement, ensuite de pouvoir le présenter plus ouvertement. Pour la petite histoire, Guillaume nous a rejoint aussi au sein d'Elio, où il a pris un poste de direction. Et donc, maintenant, on est deux à porter en interne le projet. Donc, on est plus fort. et maintenant que c'est organisé, bon, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais c'est vrai que dès le départ, je pense qu'il faut affirmer qu'on est sûr de soi sur ce projet, sur un projet. Parce qu'après, bon, si on se plante, on se plante. Mais c'est ce que je n'ai pas fait au début. Voilà.
Et que maintenant, tu fais. Et j'espère qu'on pourra faire le point en 2025-2026 pour voir les premières promos, les premières cohortes qui commencent à travailler sur des chantiers. Un grand merci, Claire, pour ce témoignage.
Merci beaucoup, Mathilde. Et ben oui, à très bientôt. Alors, j'espère avant 2025. Mais en tout cas, merci beaucoup.
Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce témoignage vous permettra de continuer à remplir votre sac à dos de bonnes idées et de conseils pour vous lancer sur le chemin de l'intrapreneuriat et agir à votre échelle. En attendant, pour diffuser l'envie d'agir et prolonger l'expérience, nous avons besoin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à le partager avec tous ceux qui pourraient être intéressés. Vous pouvez aussi liker, nous diffuser sur vos réseaux sociaux et rejoindre le mouvement des Intrapreneurs for Good sur Twitter, Intra for Good, et sur Instagram, Intrapreneurs for Good. À bientôt !